La laïcité subit tout de même des assauts un peu partout dans le monde, y compris dans nos pays, à nous. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est d'essayer de la définir, cette laïcité, finalement. D'où est-ce qu'elle vient? Qu'est-ce qu'elle signifie? Moi, j'ai presque envie de dire, pour répondre à la question principale du débat, quelle est la place de la religion dans la société? Qu'en gros, la société et l'État doivent protéger les religions, mais que les religions ne doivent pas faire la loi. Et pourquoi? Parce que je crois aux vertus de la laïcité précisément, ou plus largement de la modernité. Qu'est-ce que c'est que la modernité? Je suis d'accord que c'est un terme dangereux, difficile à manier, mais en gros, je la vois, vous me permettez juste de développer ça, mais en une minute, se développer sur trois plans en même temps, et à partir du XVIe siècle en Europe précisément, par rapport à la science, le monde naturel, va être considéré non pas comme le lieu d'expression arbitraire de Dieu, les comètes ne sont pas les messages divins, ou le sida n'est pas une punition de Dieu, etc. etc. Donc l'homme acquiert une autonomie par rapport au monde extérieur. Deuxième élément, la religion précisément, mais on y reviendra sûrement. Ce qui se passe avec la modernité, c'est que ce n'est plus le texte et la lettre du texte qui va être juge de la religion, c'est la conscience humaine qui va éventuellement juger le texte. Mais là, j'y reviendrai à d'autres moments. Et puis enfin, en politique, qu'est-ce que c'est que la modernité? C'est la démocratie. C'est-à-dire le pouvoir n'est plus de droit divin, n'est plus imposé, c'est le peuple qui se l'approprie, bien ou mal, mais enfin qui se l'approprie. Donc pour moi, les trois niveaux sont indissociables, science, religion, démocratie. Et lorsqu'on s'en prend à la laïcité, ce sont ces trois réalités qui sont menacées ensemble. Voilà.
Ben, je vous remercie, Étienne Barrier. C'est un bon résumé de ce que j'avais prévu d'aborder. Je vais y ajouter encore l'éducation, mais j'aimerais qu'on entende Leïla Sebar sur la question initiale. Après, je reviendrai chez vous, Étienne Barrier, par rapport à laïcité et modernité.
Oui, moi, je ne sais pas si ça marche. Ça
marche? Oui, c'est bon, on vous entend.
Moi, je vis en France et j'ai choisi de vivre en France puisque je suis né en Algérie. Comme vous l'avez dit, d'un père algérien et d'une mère française, qui étaient tous deux instituteurs laïcs, et non pas religieux ou confessionnels. Et j'aurais pu choisir de vivre en Algérie. Dire c'était tout à fait possible. J'ai choisi, ou mes parents ont choisi pour moi, puisque j'ai fait mes études en France, mes études supérieures, la France. Et si on me proposait de vivre en Algérie, aujourd'hui, je dirais non. Je dirais non parce que, d'après les informations que j'ai, d'après à partir des voyages que j'ai pu y faire, des rencontres que j'ai pu avoir aussi, pour une femme, en Algérie, et pas seulement en Algérie, mais je parle de l'Algérie, pour une femme, c'est très difficile de vivre, et de vivre comme moi je veux vivre, c'est-à-dire comme une femme libre. Et l'Algérie n'est pas un État théocratique. Hein. C'est en principe un État laïque, mais dont la religion d'État est l'islam. Et on sait que depuis un certain nombre d'années, l'Algérie, comme d'autres pays du Maghreb et du monde arabe, et la Turquie, en effet, se sont islamisés à grande vitesse. Donc moi, je ne peux pas vivre dans un pays d'islam. Je peux vivre en France parce que c'est un pays laïque et un pays laïque qui tolère les autres cultes et qui tolère les autres religions. Pour moi, c'est important d'être en France et de savoir qu'en France, il y a l'islam aussi.
C'est d'ailleurs la deuxième religion de France aujourd'hui,
et
l'islam.
Et effectivement, aujourd'hui, c'est la deuxième religion de France après le protestantisme.
Avant le protestantisme et après le catholicisme.
Après le catholicisme et avant le protestantisme en France.
Non, la deuxième religion de France... Après parce que la première religion est le catholicisme.
Voilà. Oui, c'est ça. Voilà.
Bon, donc avant, c'était le protestantisme qui était la deuxième religion, c'est ça. Bon, il y en a un certain nombre de religions et de cultes. Et pour moi, c'est très important que l'islam soit présent en France parce que l'islam est lié à l'histoire de mon père, même si l'islam n'est pas ma religion. Et c'est une des composantes de ce que j'écris Et je n'irai pas vivre, excuse-moi, en Algérie, alors que c'est un pays d'islam, parce qu'il n'y a pas suffisamment d'étrangers. D'accord. Et moi, j'aime qu'il y ait des étrangers là où je vis.
Alors, on verra tout à l'heure à quel point c'est important dans votre travail quand même, comme vous venez de le dire. Métine Arditi, vous vouliez ajouter quelque chose?
Oui, je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Étienne Barrier concernant la laïcité. Je crois qu'il faut quand même avoir un regard différencié sur le problème de la laïcité qui subit des assauts. Étienne Barrier a dit justement, elle subit des assauts, la laïcité. Mais nous subissons tous des assauts de toutes sortes. Par exemple, nous subissons des assauts de bactéries. Mais nous arrivons, pour la plupart du temps, à nous protéger des grippes et des pneumonies. La question est de savoir quel pays se protège facilement, sans souci, de ces assauts, et quel pays, quelle zone géographique n'a plus les anticorps. Et madame a très justement parlé de la Turquie, un pays que je connais, qui a fait sa révolution laïque en 23 avec Atatürk, qui était pendant des dizaines d'années un pays fondamentalement laïque et qui a subi les assauts de l'islamisation et qui craque. Il n'a pas complètement lâché, mais le pays craque. Et ce que je voudrais ajouter pour terminer ce petit mot, c'est que le titre qui nous réunit ici, quelle place accorder aux religions dans la société, compte tenu des passions que soulèvent les religions, ce titre me paraît très naïf. On n'accorde pas une place comme on accorde un prix.
Alors,
pas
j'allais y venir tout de suite derrière, mais si vous permettez, Métine Arditi, j'aimerais bien revenir à Étienne Barrier pour bien poser le problème au départ. Parce que Étienne Barrier, dans votre essai « Ils liront dans mon âme, les écrivains face à Dreyfus », vous donnez une définition, ou en tout cas un signe temporel sur le début de la laïcité moderne. Vous dites finalement c'est à partir du bordereau rédigé par Esterhazy que indirectement va naître la laïcité moderne. Alors essayez de nous expliquer pourquoi.
Je veux bien, mais je crois que ça nous éloignerait quand même un peu du centre du problème. Si j'ai dit cela, c'est juste parce que dans l'histoire française, la place de la religion catholique dans la société a changé après cette affaire et est devenue seconde, ou disons, il y a eu la séparation de l'Église et de l'État. C'est pour ça que je le disais.
Mais est-ce que quelque part, la place de l'Église catholique en France n'est pas en train de changer à nouveau ?
Écoutez, je ne suis pas compétent pour répondre là-dessus. Bon, elle est certainement de moins en moins importante, si vous voulez mon avis. Mais je crois quand même que le fondement, enfin, ce qui a été à l'origine de ce que nous appelons maintenant la laïcité, ça remonte beaucoup plus haut que la fin du XIXe siècle. Et ça remonte pour moi au XVIe siècle, puis au XVIIIe avec les Lumières. Je pourrais entrer je pourrais en parler de façon plus précise si vous le souhaitez à propos de la critique des textes religieux, mais voilà, je pense qu'il faut remonter très haut. Juste pour répondre encore à Métine Arditi, je suis parfaitement d'accord, même si je n'aime pas trop ces comparaisons avec des maladies et des microbes, mais je suis parfaitement d'accord qu'on est plus ou moins apte à se défendre, mais que les assauts existent partout, je crois que c'est vrai.
Alors, je vous reviens, Métine Arditi, avec effectivement ce verbe « accorder ». Oui. Ce serait intéressant de s'arrêter un instant là-dessus. Qui accorde et à qui ? Est-ce que c'est un accord sociétal ? Est-ce que cet accord doit être également individuel pour fonctionner ? Et finalement, est-ce qu'on est obligé d'adhérer à cet accord ? Je pense que c'est une question qu'en tant qu'écrivain, vous vous posez.
Oui, je crois que la question fondamentale est de savoir, pour commencer, si une place importante de la religion dans la société est oui ou non une bonne chose. Ça, c'est la première des choses. Parce qu'à partir de là, la société peut s'organiser. Elle peut réagir de manière démocratique, c'est-à-dire en mettant des efforts ici ou là pour favoriser ou pour contrer la place prise par la religion. Alors, là, évidemment, débute les choix personnels. Alors, pour ma part, je suis très intéressé par les religions, et vous le savez, je les étudie beaucoup tout le temps et depuis des années. Mais pour ma part, lorsque je vois, sans a priori, l'état dans lequel se trouvent les pays qui sont pris d'assaut par la religion, je me dis d'abord que ce n'est pas une bonne chose, que les gens sont malheureux, que les droits sont bafoués. Mais néanmoins, je me dis aussi que si cela se passe, c'est qu'il y a à cela des raisons. Et que la religion répond à des besoins essentiels. Le point suivant dans mon raisonnement, c'est que ces points essentiels ne sont pas couverts ailleurs. Et je pourrais pratiquement terminer, et sans vouloir être du tout discourtois, moi je pourrais m'arrêter en disant que la seule réplique possible à cet envahissement, c'est les arts. C'est l'art par lequel on touche chacun au plus profond de lui-même, qu'on répond à ses interrogations, qu'on apporte du beau dans sa vie. Et si les sociétés souhaitent canaliser à sa juste place, là où, à leur juste place, les religions, puisque forcément ça doit être pluriel dans une société laïque, à mon sens, non pas d'écrivain, mais de citoyen, et aussi de personnes très engagées dans les activités artistiques et culturelles de sa ville, la seule réponse possible, c'est la culture et les arts. Mais plus les arts, je dirais, que la culture.
Vous m'arrangez pas, parce que c'est un autre débat, quelque part. Hein. Je pourrais vous rétorquer que finalement, on pourrait se poser la question de la place de Dieu dans la création. Notamment artistique, hein. Mais c'est un autre débat. Donc on va essayer de rester sur celui pour lequel on est là aujourd'hui. Et Étienne Barrier, vous vouliez réagir.
Oui, je voulais juste vous répondre, Metin Arditi, que vous avez exprimé ce qui est le plus souhaitable, le plus merveilleusement souhaitable, que l'art nourrisse les êtres et leur donne à la fois la beauté, la fraternité, la liberté. C'est ce que je rêve aussi, mais nous savons parfaitement que depuis que l'humanité existe, elle ne se suffit pas de cela, même si nous pouvons le regretter beaucoup.
On est parti pour un vrai débat.
Non, mais donc je reviens au fait que les religions existent et qu'on ne va pas en faire l'économie, et que la question de savoir en effet aujourd'hui quelle place les États, je dirais plutôt que les sociétés ou les législations vont lui donner, est une question qu'il faut résoudre. Alors, je ne prétends pas être compétent là-dedans, mais c'est la question qui nous est posée.
Je dirais même qu'avant de les résoudre, il faut commencer par les affronter réellement et au bon endroit. Leïla Sebar, puis Metin Arditi.
Oui, moi je voulais dire que, pour en revenir à ce libellé, la place des religions, etc., ces religions qu'on met au pluriel, dans les pays d'Europe de l'Ouest, dont on parle et où nous vivons, il est évident que c'est l'islam. Ne nous cachons pas. Quelle place accordée aux religions, c'est quelle place accordée à l'islam.
Le libellé exact, c'est aux religieux, ce qui est assez prudent.
Oui, c'est, je veux dire, la prudence. Et là, c'est un masque, bien qu'on se batte contre les masques en ce moment, c'est un masque pour dire ou ne pas dire quelle place accordée à l'islam. Parce que c'est l'islam qui pose question, c'est l'islam qui interroge, c'est l'islam qui fait peur, c'est l'islam qui, aujourd'hui, est la religion qui occupe les esprits. Non pas spirituellement, mais politiquement. Oui. Donc, c'est cette question-là qui est posée. Et effectivement, en France, ce qui est intéressant, c'est que tout le monde, et pas seulement les musulmans, et pas seulement les religieux ou les théologiens, tout le monde, toute la société, c'est-à-dire l'ensemble des citoyens, s'interroge sur la place que l'islam peut occuper, et comment, et dans quel cadre, et de quelle manière, etc., etc.
On le voit très bien sur le débat sur l'identité nationale en France.
À la fois sur l'identité nationale et sur le port du niqab. Quand j'entends dire une sommité théologique ou théologienne, je ne sais pas comment on dit, que vous connaissez bien parce qu'elle vit ici, que on peut dire que pour les musulmans, le Coran est ma loi, c'est une vraie question. Comment peut-on dire dans des pays laïcs, en tout cas qu'on présente comme des pays laïcs, comment peut-on accepter cette assertion? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et alors, c'est pas seulement la question du niqab. C'est beaucoup plus profond, beaucoup plus vaste, beaucoup plus inquiétant.
Merci. On va revenir là-dessus. Moi, je voulais éviter de stigmatiser sur l'islam,
ne commençons pas par dire ce mot-là de stigmatiser. Ou on analyse, ou on réfléchit, ou pas. Et ne commençons pas par dire stigmatisation. Ça suffit.
On pourrait dire, pour apaiser les choses, qu'en d'autres temps, ça a pu être le christianisme qui a posé ce problème.
Le judaïsme aussi, à certaines époques.
C'est possible.
Voilà. C'est la raison, quand je dis stigmatisation, Leïla Sebar, c'est je veux dire, vous ne voudrez pas qu'on focalise sur l'islam, mais qu'on essaye d'élargir. Voilà.
Non, excusez-moi. Non. Si je suis invité là.
Oui.
Je parle.
Bien sûr.
Bon. Si je
parle. Mais les autres aussi.
Et aussi, ils ont parlé. Ils ont parlé.
Sous votre contrôle.
Non, absolument pas. Et donc, moi, je dis comment j'entends cette question-là, qui est un euphémisme.
Et on vous écoute.
Et je ne peux pas ne pas être d'accord en lisant, par exemple, quelqu'un comme Mohamed Sifawi, qui vient de publier un livre qui s'appelle « Pourquoi l'islamisme séduit-il ?»
Oui.
Et il pose bien la question, tout en étant musulman, peut-être un croyant, mais enfin, tout en se réclamant d'une...
C'est un très bon livre.
Et il pose cette question précise. Et il dit d'ailleurs aux Européens, aidez-nous, ne faites pas ceux qui disent c'est une culture différente, ce qui est bon pour nous n'est pas bon pour vous, etc. Aidez-nous, pensez avec nous ce problème fondamental. Qu'est-ce que c'est qu'un absolu qui se dit divin et qui veut s'imposer dans une société moderne? Qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que ça implique? C'est cette question, en effet, qu'on doit se poser. Et pour moi, ça engraine sur une autre question, finalement fondamentale, c'est quelle lecture va-t-on faire du texte sacré pour qu'il ne conduise pas à cet empiètement sur la vie sociale et politique et juridique.
Alors c'est une partie du problème, parce qu'il y en a qui souhaitent que cet aspect-là revienne dans le débat politique au quotidien. En France, il y a des mouvements qui vont vers ça, par exemple. Mais j'aimerais revenir à ce que disait Metin Arditi tout à l'heure. Finalement, la vraie question qu'il faut se poser au départ, c'est qu'est-ce qu'apportent les religions? Si on en a besoin, pourquoi? Et moi, je vous donnerai deux pistes. C'est, un, est-ce qu'elles donnent du sens? Deux, est-ce qu'elles donnent du lien à cette société?
Moi, je voudrais, au préalable, juste ajouter quelque chose. Il y a des pays qui nous sont proches, qui ne sont pas des pays musulmans, où le fait religieux fait débat. Exemple, la place de l'Église orthodoxe grecque en Grèce, par exemple. Exemple, la place de la religion en Israël, pays créé il y a 60 ans sur une base très largement laïque et qui aujourd'hui est pris d'assaut par les groupes religieux. Donc, je veux dire, il n'y a pas que le problème de l'islam, même s'il est plus proche de nous par la géographie, du fait du voisinage avec la France.
Maintenant, sur la question du rôle ou de la fonction du religieux, je vous parle en termes de lien ou en termes de sens, ça résonne en vous?
Ce qui me frappe, et j'en ai vraiment compris le sens il y a peu, ce qui me frappe, c'est la distance croissante dans le temps entre le christianisme et la chrétienté. Et je pense que cela s'applique à toute structure organisée. Il y a eu à un moment donné une pensée qui était la pensée chrétienne, c'est-à-dire qui s'incarne dans le christianisme et qui est splendide et universelle. Et puis il y a ce qu'il convient d'appeler la chrétienté, c'est-à-dire une organisation très structurée, hiérarchique, forte, omniprésente, mais qui évidemment porte en elle toutes les limites de ce genre de structure. Et donc, c'est là où j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure. Il y a le christianisme, c'est-à-dire cette pensée sublime qui répond à un grand nombre de nos besoins, mais si on n'offre pas d'alternative à cette expression, et pour moi l'alternative ce sont les arts, et ces arts, même dans les sociétés profondément catholiques, comme précisément les sociétés du Moyen-Âge, de la Renaissance, vénitienne, florentine, ont existé et se sont beaucoup développés, on passe à côté de quelque chose. Lorsqu'Étienne Barillet dit justement, mais nous, on aimerait beaucoup que cela soit, mais on vit dans un monde réel, je lui répondrai que je suis d'accord avec lui, fondamentalement. Et je suis en but au quotidien à ses limites. Mais le fait d'être en but au quotidien à ses limites, puisque les décisions concernant le développement des arts, ce sont des décisions politiques, ce sont des choix fondamentaux de la société qui sont pris par les politiques, par les parlements et par les exécutifs, eh bien, à chacun d'assumer sa responsabilité et sa part de travail dans ce sens. Nous avons affaire à des élus dont la spécialité n'est pas les arts et la culture, et qui très souvent, trop souvent, confondent les arts et la culture avec le divertissement. Et c'est là où chacun a, en tant que personne physique, en tant qu'individu, une responsabilité, à la fois à porter la parole et à la fois par l'acte du vote.
Étienne Barillet.
Je suis heureux de trouver plus idéaliste que moi. Je me croyais au comble de l'idéalisme, mais j'ai trouvé mon maître. Non, ce que je voudrais vous répondre, c'est que vous semblez presque dire que c'est aux politiques à mettre l'art au pouvoir, d'une certaine manière.
L'Union soviétique a très bien fait.
Oui, elle l'a très bien fait. Ça peut être extrêmement redoutable.
Dites-le dans le micro, que tout le monde entende.
Et ça, franchement, je n'y crois pas. En effet, ça risque d'être pour le pire, hein, lorsque c'est l'État qui prend en charge l'art et veut que l'art exprime la vérité suprême d'une société. Donc, je vous suivrai pas
ça,
jusque-là.
Je voudrais dire, ça c'est très facile à dire quand on ne s'occupe pas d'une institution culturelle. Moi, je m'occupe d'une institution culturelle dont 2/3 du budget est financé pour moitié par la ville et pour moitié par l'État de Genève. Cette institution, elle a plus de 90 ans, elle rend beaucoup de gens heureux, elle s'appelle l'Orchestre de la Suisse romande. Et s'il n'y avait pas l'État et la ville, eh bien tout simplement, l'orchestre n'existerait pas. Alors, c'est très facile
de dire que l'État ne doit pas aider là.
C'est facile de prendre des positions.
Parlez les deux en même temps, l'un après l'autre.
C'est facile de prendre des positions comme ça... entre guillemets anti-idéaliste, parce que moi je ne suis pas dans l'idéalisme. D'accord. Je suis dans la réalité des budgets.
Alors il va essayer de s'expliquer un peu mieux et puis on va
non
y aller.
Mais j'ai peur qu'on on dévie justement du sujet principal. Je n'ai pas du tout dit que les pouvoirs publics ne devaient pas aider les arts, entendons-nous bien. J'ai dit qu'ils ne devaient pas mettre l'art au pouvoir. De toute façon, ça n'avait pas de sens. Enfin, je ne vois pas ce que ça signifierait, sauf l'art au pouvoir sous Staline, comme le disait Leïla Seba. Et là, ça devient vraiment redoutable. Mais une aide de l'État, bien entendu, aux arts. Mais cette aide-là, si belle, si grande soit-elle, elle ne va pas résoudre le problème que posent les religions. J'y reviens. Et c'est quand même notre sujet aujourd'hui. Moi, je peux enchaîner
là-dessus. Allons-y. Surtout si on revient au sujet, volontiers.
Vous avez parlé de la différence entre le christianisme et la chrétienté. Et Dieu sait qu'en effet, elle a pu être grande. Ça a pu être un véritable gouffre. On peut même dire que la chrétienté, pendant assez longtemps, a peut-être été vraiment au rebours exact de ce que le christianisme demande. Mais justement, toute la question, je reviens à ça, quand on a un texte sacré, un texte donné pour sacré, qu'est-ce qu'on fait en face de lui? Je prends l'exemple de ce qui s'est passé au XVIIe siècle en Europe. Je trouve cette histoire extraordinaire. J'aimerais que tout le monde lise le livre de Pierre Bell qui s'appelle « De la tolérance, commentaire philosophique ». Il se trouve qu'au XVIIe siècle, il y a eu la révocation de l'édit de Nantes et on a donc persécuté les protestants en France. et on a légitimé religieusement leur persécution grâce, je vous prie, à un verset du Nouveau Testament. Qu'est-ce que c'était que ce verset ? Il disait « contraint-les d'entrer ». C'est dans la parabole du royaume, à un moment donné, un homme invite des gens à son banquet, les gens ne viennent pas, alors on va en chercher dans la rue, quitte à les forcer, les contraindre, entre guillemets, pour leur faire ce plaisir de les inviter à un banquet auquel ils n'étaient pas conviés au départ. À partir de ce verset qui faisait partie d'une parabole, et de ce mot « contraindre », les religieux ont justifié la persécution. Et à ce moment-là, Pierre Bell s'est levé et il a dit « Tout sens littéral qui oblige à commettre des crimes est faux. » Tout sens littéral de la Bible qui conduit à commettre des crimes est faux. C'est l'ouverture, je trouve, la plus belle ouverture à la juste interprétation des textes sacrés. Pourquoi est-ce qu'il s'est permis de dire ça ? Au nom de, je dirais, la teneur générale du Nouveau Testament, qui est évidemment un message d'amour. On ne peut pas imaginer que le Jésus, même le Jésus historique, ait voulu la violence. Et au nom de cette règle, au fond, nous allons tout lire en fonction de cette loi d'amour, si vous voulez, eh bien, on renonce à la lecture littérale lorsqu'elle semble aller à l'encontre de ce commandement d'amour. Et ça, ça donne la clé, ça donne le levier, si vous voulez. Et on pourrait très bien appliquer ça au Coran. Et il y a des chercheurs, il y a des savants, il y a des musulmans qui cherche à le faire. Moi, je pense à un grand musulman égyptien qui est mort depuis pas mal d'années, qui est Taha Hussein, qui a dit des choses extrêmement belles sur la lecture du Coran telle qu'il la souhaite et telle que nous la souhaitons avec lui. Donc, pour moi, c'est ce chemin-là qu'il faut faire. Je ne dis pas que ça suffit, parce que c'est une affaire presque de théologien, vous me direz, mais non, quand même, c'est une affaire d'atmosphère, de liberté par rapport à une lettre qui tue. Voilà.
J'aimerais rebondir sur ce que disait Leïla Sebar tout à l'heure en disant finalement le libellé du débat, c'est se poser la question sur l'islam. Ça voudrait dire que derrière, il y a une peur de cet islam ou de l'islamisation de la société. Et moi, je me demande toujours quand il y a peur, si elle ne vient pas de l'ignorance. Est-ce que finalement, on n'a pas peur essentiellement par manque de connaissances, par manque d'informations? Et du coup, j'ai envie de vous demander si une proposition comme celle de Régis Debray en France de réintroduire l'histoire des religions à l'école, ce ne serait pas une bonne idée finalement. On serait un peu moins ignorant et peut-être un peu plus tolérant. Qu'en pensez-vous?
Moi, je crois que ça a été réintroduit, justement. Dire dans l'enseignement de l'histoire aujourd'hui, dans le secondaire, premier et second cycle, on introduit l'histoire des religions dans le cours d'histoire. Et moi, ça me paraît très important. Il ne s'agit pas de catéchiser. Hein. Il s'agit de faire l'histoire.
Non, pas bien l'histoire, l'histoire des religions. L'histoire.
Et de l'histoire des religions. Et c'est important parce que, effectivement, nous sommes les uns et les autres très ignorants hein, des religions. Pas seulement de sa propre religion ou non-religion. On est très ignorants de ce point de vue-là. Et je pense que c'est très important de savoir, d'avoir un minimum d'éléments de savoir, ne serait-ce que pour entendre la musique ou pour regarder la peinture. Hein, dans l'histoire de la peinture occidentale, si on ne connaît rien à la religion catholique en particulier, on ne comprend rien à l'art. Pour la musique, c'est la même chose. Il y a la musique profane, qui ne demande aucune connaissance de ce point de vue-là. On peut l'écouter aussi. On a le droit.
J'ai le sentiment que Bettina Arditi n'est pas tout à fait d'accord avec vous.
Je dois dire que je suis aux antipodes de ce qui vient d'être dit. Je crois que l'art n'a pas besoin de commentaires. C'est ce qui fait sa spécificité. À partir du moment où il faut donner des explications, on est ailleurs.
Il ne s'agit pas de donner des explications.
Des connaissances.
Il s'agit de faire de donner des correspondances, de donner des éléments d'approche.
Personnellement, d'approche de je tableau. Suis...
On ne peut pas voir la peinture du XVIe siècle.
Je crois qu'elle se défend très bien toute seule. Je suis, pour ma part... De notre avis concernant la question de la peur dans les religions. Franchement, vous avez parlé d'un passage du Nouveau Testament qui prône la violence. Je pourrais vous en citer 150 dans l'Ancien Testament et beaucoup dans le Nouveau et beaucoup dans le Coran. Ce qui fait peur, ce n'est pas parce que, si l'on a peur, ce n'est pas parce qu'on manque de connaissances. Ce qui fait peur, c'est le comportement de certains. Chacun sait que dans chacune des trois grandes religions monothéistes, il y a des beautés inouïes et il y a également des passages qui ont été écrits en fonction de leur, disons, du moment historique et d'objectifs peut-être à caractère moins religieux. Et puis on en fait la lecture qu'on en fait. Mais ce n'est pas l'existence de ces passages ou leur méconnaissance qui fait peur. Ce qui fait peur, c'est quand on voit qu'il y a des jeunes qui se font sauter, qui meurent en tirant sur leur ceinture et qui tuent des dizaines de personnes chaque jour dans un certain nombre de pays. Et ce n'est pas, me semble-t-il, l'étude du Coran ou de l'Ancien ou du Nouveau Testament qui va changer quoi que ce soit à cette peur. Cette peur, elle est le fait de l'expression d'un désespoir.
Mais je suis d'accord avec vous, sauf que j'ai l'impression qu'on a dépassé ce stade et j'aimerais revenir au livre de Sifaoui, finalement, parce qu'on est en train de mélanger musulmans et islamistes, ce qui n'est pas du tout pareil. Et ça pose un vrai problème. Ça crée de la peur. Vous êtes d'accord avec ça, Etemari?
Oui, c'est le grand thème du livre de Sifaoui, c'est de montrer que non seulement l'islamisme n'est pas l'islam, mais aussi que l'islamisme est très ancien, parce qu'on pourrait penser que l'islamisme a été suscité par les récents événements, par, je ne sais pas, les Américains en Irak, par exemple.
Et il démontre qu'il est né avec la mort du prophète, pratiquement.
Pratiquement. En tout cas, nombreux siècles derrière lui. Le wahhabisme date du XVIIIe siècle. Bon. Donc ça, c'est une première chose qu'il pose. Et puis la seconde, c'est une différence, justement, entre l'islamisme et l'islam. C'est-à-dire qu'il essaye de montrer que l'islam peut être autre chose que ce qu'en font les extrémistes. Mais alors, je reviens à cette question de la lecture, quand même, des textes sacrés qui sont bien là et auxquels se réfèrent les croyants. C'est que si vous leur dites qu'ils doivent suivre à la lettre ce que disent tel ou tel verset, ils risquent de justifier ainsi leur violence. C'est d'ailleurs bien ce qu'ont fait les terroristes du 11 septembre 2001, hein, dans leur texte d'accompagnement, si j'ose dire. Tandis que si vous, peu à peu, vous instillez cette idée que ce texte doit être lu en esprit et pas à la lettre, eh bien peut-être qu'on peut avancer vers l'affirmation d'une religion plus humaniste, je ne sais pas comment le dire, ou plus compatible avec la laïcité précisément, ce que souhaite bien sûr un Sifaoui et bien d'autres musulmans avec lui.
Ça va et bien sûr, Metin Arditi souhaite vous répondre. Leïla Sevar, peut-être entre deux, parce qu'on vous l'a peu entendu, et après je vous donne la parole, Metin Arditi.
Oui, non, moi je voudrais juste rappeler que dans un certain nombre de pays musulmans, les femmes sont encore soumises au code de statut personnel, et que le code de statut personnel émane de ce qu'on appelle la loi coranique. Et donc, il faut penser à elles, un petit peu. Ce serait bien, quoi, hein, entre nous. Je pense que aujourd'hui encore, des femmes se battent pour abroger ce code de statut personnel, qu'on ne l'ignore pas. Ce n'est pas loin de l'Europe. Hein. C'est en Afrique du Nord et dans un certain nombre de pays musulmans. La Turquie a échappé à ce code de statut musulman, en partie, comme la Tunisie, en partie. Mais il y a des adhérences qu'on retrouve en Turquie, qu'on retrouve en Tunisie, qu'on retrouve dans des pays musulmans du monde arabo-musulman, il faut le savoir. Et quand on dit on va voir ce que dit le Coran, comment on va le comprendre, comment on va le lire, etc., c'est vrai que ce sont des questions très importantes intellectuellement et qui occupent les théologiens. C'est vrai et c'est important, mais il y a une pratique sociale et politique qui est aujourd'hui à l'œuvre et qu'on doit un peu regarder et interroger.
Metin Arditi, puis Étienne Barrier.
Oui, je reviens sur la question de l'apprentissage, disons de la découverte des textes religieux. Et ce que disait tout à l'heure Étienne me conforte dans ce sens où, effectivement, ce n'est pas dans les bonnes écoles de France qu'il convient surtout d'approcher ces textes, mais bien dans les pays où il y a une recrudescence d'actes terroristes, c'est-à-dire d'actes de désespoir. Et la question est vraiment, pour moi, on en revient à cela. Qu'est-ce qui fait qu'une religion arrive à avoir une telle emprise sur les gens? Et deuxième question qui vient juste après, si ce n'est pas la religion, qu'est-ce que ça peut être qui nous touche de manière si profonde? Ce que je constate, c'est que pendant des siècles, les arts ont accompagné le fait religieux et se sont développés avec lui, à côté de lui, mais aussi en son sein et grâce à lui. Donc, quelque part, il doit y avoir un élément de réponse là-dessous. Lequel exactement, je ne sais pas.
Alors, mais... on va peut-être explorer un petit peu ça tout à l'heure. J'ai l'impression que vous vouliez réagir, Étienne Barillet, donc on va peut-être terminer là. Allez, je vous laisse
réagir.
On est
là pour ça. Hein.
Oui, oui, c'est un débat.
Pour débattre. Non, je dirais simplement, je ne sais pas exactement ce que vous-même voulez dire quand vous parlez d'un développement conjoint des arts et des religions. C'est absolument vrai qu'il y a eu un développement conjoint, mais ça n'a pas toujours été pour le meilleur. Je veux dire que les arts ont pu être extraordinairement florissants dans des civilisations qui étaient par ailleurs violemment conquérantes. Et encore une fois, l'art en lui-même, par lui-même, malheureusement pas, mais j'en souffre comme vous de le penser, n'a pas le pouvoir d'amener la douceur et la paix sur la terre par le seul fait qu'il existe. S'il n'existait pas, nous mourrions de soif, c'est vrai, mais malgré le fait qu'il existe, il n'a pas tout pouvoir sur les sociétés, malheureusement, peut-être. Donc il ne faut pas lui accorder plus qu'il n'a.
Alors moi, je vais vous provoquer un petit peu, parce que ça fait maintenant trois quarts d'heure bientôt qu'on débat du sujet. On a parlé du religieux qui était dans notre titre. On a forcément très vite glissé vers religion au pluriel. J'ai encore pas entendu une seule fois le mot foi. Est-ce que la foi joue un rôle dans tout ça, finalement? Ou est-ce qu'on envisage ces religions que d'un point de vue, j'allais dire, politique, ce qui est encore plus provoquant?
Évidemment que la foi joue un rôle fondamental pour les croyants. S'il n'y avait pas de foi, il n'y aurait pas de religion. La foi étant l'adhésion à des vérités qui ne sont pas démontrables, je dirais, qui sont considérées comme divines. C'est justement d'ailleurs dans cette mesure-là que je trouve la foi est une chose infiniment intime et précieuse que donc les États doivent d'une certaine manière protéger. Il faut que les citoyens puissent avoir une foi et ne pas être persécuté pour elle, mais d'un autre côté, précisément parce qu'elle appartient au domaine, à un domaine qui est au-delà de la raison et de ce qu'on peut établir, prouver par des procédures rationnelles ou démocratiques, précisément pour cette raison-là, la foi ne doit pas être au pouvoir politique.
Je vous remercie, parce que c'est un peu là que je voulais en arriver pour la prochaine question.
Mais j'allais juste dire encore, le grand problème de Dieu, c'est qu'il est irréfutable et que dans les démocraties, tout doit être réfutable. Tout doit être, sur la place publique, discuté et accepté par tous, rationnellement.
Médine Arditi.
Moi, je crois, et peut-être que je me répète, je crois que fondamentalement, les religions ont leur place en tant qu'elles sont un apport de consolation. Et le véritable problème consiste à mieux comprendre ce mécanisme dont nous n'avons pas parlé, j'aurais aimé qu'on le fasse, à mieux comprendre ce mécanisme et à voir quelles sont les alternatives à ce processus. Et j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, l'alternative à un processus qui touche quelqu'un de manière si intime qu'il peut l'amener à prendre des textes aberrants, à les interpréter littéralement et ensuite à aller se faire sauter sur une place de marché, l'alternative à ce mécanisme doit forcément être un processus très intime. Ça ne peut pas être un processus qui se limite au rationnel. À partir de là, on se pose la question, alors qu'est-ce qui reste à notre disposition pour atteindre, pour dépasser le rationnel, pour atteindre l'intime, eh bien pour moi, ce qui reste à notre disposition, ce sont les arts. C'est eux qui amènent la consolation.
Oui, on pourrait discuter oui. longtemps là-dessus, Étienne Barillet.
Non, simplement, je dirais, je ne vois pas pourquoi nécessairement les opposer. C'est pas les religions ne valent rien, donc il faut l'art à la place. Les religions, d'ailleurs, on n'a pas dit ça, mais c'est une vérité de base que religio, ça veut dire ce qui relie. Et effectivement, les religions,
je posais la question du lien tout à l'heure
avec le transcendant, mais aussi entre les individus qui croient à la même chose. Alors, ça crée une forme de communion entre des individus qui croient à la même chose. Et là encore, c'est vrai que l'art, à sa manière, là je vous rejoins tout à fait, crée une communion entre ceux qui l'aiment, le goûtent et en ont besoin pour que leur vie ait du sens. Je suis complètement d'accord avec cela, simplement je ne vois pas qu'on puisse opposer l'un à l'autre ou substituer l'un à l'autre.
Moi, j'aimerais rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure, parce que c'est une des questions à laquelle je voulais vous amener. Finalement, est-ce qu'aujourd'hui, vous disiez protéger les religions où l'État doit permettre qu'elles puissent vivre d'une certaine manière. Est-ce que c'est compatible, quelque part, avec la démocratie absolue ? Moi, j'ai le sentiment qu'à un moment, le voisinage entre religion et démocratie se fait peut-être au détriment du développement des religions. Fut-il exagéré ? Fut-il intégriste dans certains cas ?
C'est-à-dire qu'au moment où une religion menace la démocratie, alors il faut l'arrêter dans son expansion. Parce que la démocratie, c'est encore une fois la structure qui permet la libre expression de chacun. Et c'est justement pour la préserver, cette libre expression de chacun, qu'il faut arrêter certains lorsqu'ils vont trop loin et veulent imposer leur manière de voir.
Accordez-moi que c'est paradoxal.
C'est paradoxal, mais la démocratie est un paradoxe. J'aime bien ajouter que c'est pas la loi de la majorité, du moins ce n'est pas d'abord la loi de la majorité. Si c'est la loi de la majorité, c'est parce que c'est la loi du respect de la liberté de chacun. Et ça se traduit lors des votes par le choix majoritaire.
C'est peut-être ça qu'on a tendance à oublier. Métin Arditi.
Je crois que lorsqu'une religion menace une démocratie, c'est un peu comme une digue qui commence déjà à laisser filtrer de l'eau, c'est trop tard. Ça veut dire que le processus a atteint un point de non-retour. C'est exactement la situation de la Turquie aujourd'hui, qui était un pays absolument laïque il y a 40 ou 50 ans et qui est devenu un pays religieux. C'est exactement cela. Et pour faire marche arrière, je ne vois pas comment.
Je peux poser moi une question à Leïla Sebar qui connaît bien l'Algérie, justement, ou l'Égypte. Comment expliquer que dans les années 50, je pense au film de Youssef Chahine qui se passe au Caire, le Caire ressemble à Rome, les femmes sont habillées comme à Rome. Et dans les années 50, il y avait donc un islam, je dirais, qui n'était pas lourd à porter, c'était bien un pays islamique. Et l'Algérie, c'est plus complexe, justement, vous allez me répondre là-dessus. Mais et pourquoi est-ce que depuis, disons, trois décennies ou quatre, les choses se sont à ce point durcies ?
Vous me prenez pour qui ?
Vous allez me dire qui vous êtes.
Non, c'est-à-dire, je ne peux absolument pas répondre de manière honnête à une question pareille. Je veux dire, je ne suis ni politologue, ni théologien, ni sociologue, ni historienne. Je suis là comme écrivain et je n'ai pas de réponse comme écrivain à ce genre de questions. Hein ? Je veux dire, vous êtes vraiment, pervers. Oui. Je ne sais pas s'il est connu pour ça, mais en tout cas...
Alors, je vous demanderai votre sentiment tout personnel sur cette évolution.
Non, mais même, je n'ai pas à dire non plus mon sentiment personnel, parce que ce n'est pas intéressant. Ce n'est pas intéressant. Je veux dire, où vous parlez avec quand même une certaine réflexion, une analyse, un savoir que vous cherchez à transmettre, sinon vous vous taisez. Et moi, je me tais. Je me tais.
D'ailleurs,
je
c'est le moment
de parler n'importe comment.
C'est le moment qu'on avoue devant le public ce que nous nous sommes dit avant le début du débat, tous les trois, c'est que nous étions d'une incompétence crasse et qu'on se demandait pourquoi on nous avait invités à parler d'un sujet pareil qui est De la compétence peut-être de tout le monde, mais de personne aussi. Enfin,
oui. Il y avait un sous-titre au débat, c'est la parole aux écrivains, finalement. Oui. Le fait que vous soyez écrivain est peut-être aussi un prisme par lequel on peut regarder le problème.
Alors, à ce moment-là, on pourrait répondre dans le sens de M. Arditi que les écrivains sont aussi des artistes.
Bien sûr.
Et qu'ils ne vont pas répondre à ces questions qu'on se pose. Mais on peut dire qu'ils sont là et qu'on va les lire, de même qu'on va aller regarder l'exposition de
Valoton,
qui est juste à côté.
Juste à côté de nous.
Oui, et donc on aura tout. On a les écrivains, on a les arts, et on va avoir toutes les réponses à ces questions sur les religions et le religieux. Ce qui veut dire que on n'a rien dit.
Oui,
on n'a rien dit.
Je suis d'accord avec
on
vous. Et si j'étais cohérent, j'arrêterais le débat là.
Oui, hein. Je suis d'accord. Je suis d'accord.
Mais, il y a quand même une question liée au religieux, qui est celle de l'identité. Hein, si j'ai repris textuellement la manière dont on vous a présenté sur le site internet, c'est pas pour rien. On dit de vous Metin Arditi, écrivain d'origine juive, né à Ankara en Turquie. On dit de vous Leïla Sebar, mère française, père algérien, agnostique, ne parlant pas l'arabe.
Tout ça est vrai.
Oui.
Tout ça est vrai, c'est une pièce d'identité.
Non, mais attendez, vous allez voir la différence. On dit pour Étienne Barillet, écrivain et essayiste suisse.
Point final.
Mais on ne dit pas s'il est catholique, on ne dit pas s'il est protestant, on ne dit pas s'il est croyant.
Alors je vais faire mon coming
out.
Mais vous allez voir. Ma question finalement, c'est dans quelle mesure le religieux ou la religion à laquelle vous appartenez ou aux religions auxquelles vous n'appartenez pas font partie de votre identité et notamment de votre identité d'écrivain.
Alors ça, là, c'est une vraie question. Commencer le débat par là. C'est pas possible parce qu'il y en a un autre.
Oui, mais essayons quand même.
Ah non.
Personne.
Bon, moi, je peux répondre quand même que seulement...
Vous vous en foutez, vous êtes suisse.
Non seulement protestant, mais fils de pasteur, ce qui veut quand même dire quelque chose. Ce qui veut dire que la religion a été extrêmement présente dans ma vie, même si je suis plutôt... Je me qualifierais plutôt de ce qu'on appelle agnostique, mais c'est quelque chose qui compte pour moi, la religion, et notamment, évidemment, le rapport au texte. Et la discussion des textes sacrés. Donc, je ne parle pas non plus d'un point de vue complètement neutre. Et si je vous ai cité Pierre Bell, c'est que c'était tout de même, quoi qu'il se soit converti deux fois et passé du catholicisme au protestantisme, c'était quand même un protestant qui a subi les persécutions, qui a subi les dragonnades, si vous voulez. Ça ne veut pas dire que je ne me trouve pas des grands maîtres à penser dans d'autres religions ou d'autres confessions, loin de là, bien sûr. Mais voilà, vous avez votre réponse.
Metin Arditi, l'identité ?
Écoutez, l'identité dont on hérite, dans mon cas, je suis né juif dans une famille laïque, dans un pays musulman. Quand j'étais enfant, j'allais tous les dimanches à l'église catholique. J'ai ensuite grandi dans une école protestante en Suisse. J'ai épousé une femme qui est grec-orthodoxe. J'ai l'impression d'avoir fait mon bout de chemin.
Alors, je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose. Moi, je pense que c'est une jolie façon de terminer, finalement, parce que c'est en se donnant la main qu'on se comprendra. Et puis, peut-être qu'en se donnant la main... Vous n'y croyez pas, Leïla Sebar ?
Non, pas.
Pourquoi ?
Pas du tout.
Mais dites-moi, alors, prenez un micro, dites-moi pourquoi.
Non,
vous ne pouvez pas me dire ça et pas me répondre.
Non, on va prendre sur le temps du débat.
Mais non. On a encore 5 minutes.
Il ne faut pas gommer ces différences, c'est sûrement ce que Leïla
Sebar
veut
dire. Oui, alors ça, je suis
d'accord. Et il ne faut pas faire semblant d'être d'accord quand on ne l'est pas.
Alors, voilà. Je suis d'accord avec vous, il ne faut pas aller à la rencontre de l'autre en s'oubliant. Ça, c'est tout à fait clair. Si on veut pouvoir se comprendre, il faut aussi exister. Je vais vous demander de remercier Leïla Sebar, Metin Arditi et Étienne Barillet avec une salve d'applaudissements. Merci.